Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Philippe Rosenpic. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour maître, vous êtes avocat d'affaires, mais ce n'est pas à l'avocat d'affaires que je m'adresse là, c'est à l'homme qui est passionné de ce qu'on appelle le street art et qui passe beaucoup de temps par passion à essayer d'évangéliser le grand public comme les entreprises sur le street art. Ce qui m'intéresse dans votre démarche, Philippe Rosenpic, on va en parler, ce sont les fresques que vous inaugurez, que vous lancez, parfois même pour des entreprises. Alors que le street art a souvent été considéré comme un art de rue et surtout un art éphémère. Est-ce que le street art reste toujours éphémère ou on peut concevoir finalement cet art sur du long terme ?
Dans mon esprit, l'art de rue est forcément éphémère puisqu'il est soumis aux intempéries, aux actes de destruction des gens qui n'aiment pas, et également à la réglementation des villes qui peuvent aussi détruire ce que font les artistes. Donc il y a bien forcément un côté éphémère sur le street art. Par contre, depuis un certain nombre d'années, le street art c'est aussi enraciné dans le temps. Vous pouvez voir par exemple dans le 13e beaucoup d'œuvres qui ont été faites sur les murs d'immeubles qui n'ont plus rien d'éphémère mais qui sont là pour très 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 longtemps. Donc aujourd'hui, le street art est peut-être passé d'un côté un petit peu vandale, clandestin, hors la loi, à un côté beaucoup plus noble, en habillant les murs gris au profit de la population et puis des mairies. Donc c'est devenu un art qui n'a plus rien d'éphémère quand il devient en réalité souhaité par les mairies et souhaité par la population.
On peut dire qu'il s'est embourgeoisé ?
Alors, c'est une bonne question. Est-ce qu'il s'est embourgeoisé ? Si on considère que le bourgeois ou les bourgeois sont les premiers à lever la tête pour regarder une œuvre, la comprendre, l'analyser, etc. Oui, mais ce n'est pas le but du street art. Il s'est embourgeoisé en mettant à pied dans les galeries et dans les ventes aux enchères, et évidemment en participant finalement au consumérisme de l'art contemporain. Mais il ne s'est pas embourgeoisé en donnant accès à tout le monde, à de la culture et à des émotions, fût-il sur des murs. Et ce qui est frappant aussi, c'est de voir à quel point, d'ailleurs, les street artistes même les plus connus, qui vendent des tableaux très très chers dans les galeries et les ventes aux enchères, ont un besoin vital de temps en temps d'aller intervenir sur un mur, que ce soit d'ailleurs de façon tout à fait ostensible avec le soutien des mairies ou de façon illégale, voire même sur un train. Voilà.
Alors Philippe Rosenpic, à l'origine, le street art, c'était aussi une volonté de dénoncer la société, de se mettre dans une sorte de marginalité. C'était un art marginal fait par des marginaux, aussi contre la société de consommation, contre l'entreprise, contre l'économie telle qu'on la connaît. C'est maintenant repris par des grandes entreprises, le street art. Est-ce qu'elles essayent de s'acheter un brin de canaille, de canaillerie, quoi, pour une provocation?
Alors, oui, alors au départ, le street art, je ne suis pas tout à fait d'accord en fait avec la dénonciation de la société. Au départ, en réalité, c'est surtout, je l'appréhende, ce sont des jeunes qui vivent dans des banlieues, dans des ghettos, qui sont un petit peu en marge de la société, en tout cas qui ne sont pas, eux, dans les rails de l'embourgeoisement de la société, qui vont dire tout simplement « j'existe ».
Voilà. Et donc, ils ne disent pas forcément que la société est formidable et qu'elle leur correspond.
Voilà, mais si on regarde les premiers graffitis, en tout cas toute cette génération graffiti qui est avant d'ailleurs la génération street artiste qui dénonce, cette génération graffiti, elle dénonce pas forcément, elle fait des fresques, elle fait du writing, elle fait des choses qui sont colorées, mais c'est d'abord pour manifester leur existence. Et puis c'est aussi parfois des guerres de quartier. Vous savez très bien qu'effectivement, quand un street artiste écrit sur un mur, souvent les autres street artistes n'effacent pas, ils n'ont pas le droit d'intervenir. Donc en réalité, il y a toute une série de codes au départ. Et au départ, c'est plutôt pour moi, c'est j'existe, je suis là, Et donc, je pallie à l'espèce de no man's land dans lequel je vis, où je n'ai pas accès finalement à une caisse de résonance qu'est la société. Ensuite, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que le street art est très récupéré par les marques, notamment. Hein, voilà. Et on peut considérer qu'effectivement, il participe aujourd'hui pleinement en fait à la société de consommation pour ceux qui se prêtent à cet exercice. C'est vrai que entre une œuvre que je mets dans la rue pour dénoncer voilà la société de consommation, les problèmes d'environnement, les problèmes de démocratie, etc., à quelque chose sur les t-shirts, les chaussures, il y a un petit côté. Il y a un petit côté canaille, effectivement, vous avez raison de le dire. Il y a un petit côté embourgeoisement, récupéré certainement par les marques. Les marques, l'objectif des marques, c'est de faire vendre, hein, c'est pas du tout de faire passer des messages. Et donc, évidemment, les deux actuellement coexistent. Et la question qui se pose, c'est est-ce que finalement je peux rester un street artiste reconnu qui fait passer des idées? Est-ce que je peux utiliser les marques comme chacun fait la courte échelle à l'autre, hein. La marque utilise un nom connu pour vendre, mais le nom connu utilise la marque pour faire passer aussi des dessins et des idées. Donc, est-ce que les deux sont finalement la courte échelle? Est-ce que les marques et la société de consommation va vampiriser les street artistes si eux-mêmes y participent trop de plein pied? Ou est-ce que finalement ça permet aux street artistes, comme par exemple Shepard Fairey, pour citer que lui, ou Invader, qui ont lancé leur propre marque de vêtements, de vulgariser à travers des objets de consommation courant, finalement, les idées ou les graphiques qu'ils ont. Bon, moi, je sais pas ça encore, mais ce qui est sûr, c'est que quelque part, l'histoire de l'art ne retiendra pas forcément ceux qui participent aux marques. Voilà. En tout cas, ça, c'est mon avis. Voilà.
Alors Philippe Rosenpick, l'avocat d'affaires Philippe Rosenpick est mon invité, vous êtes avocat d'affaires. On va changer de sujet, on a parlé de street art, il y a aussi beaucoup de choses qui vous tiennent à cœur, il y a aussi votre combat politique, enfin combat, le terme est peut-être, on va dire votre réflexion politique, vous avez lancé votre cercle de réflexion qui s'appelle le Cercle One. On retrouve des personnalités assez différentes, comme la libérale Agnès Verdier-Moulinier. On a retrouvé aussi Fanny Lettier, qui a dirigé le cabinet d'Arnaud Montebourg. Quels sont les axes forts qu'un entrepreneur comme vous, à travers son cercle de réflexion, a envie de lancer aux politiques pour les années qui viennent?
Très bien. Alors. En fait, alors je vais revenir 2 secondes sur le street art, si vous me permettez, parce que effectivement, avec ma femme, on s'est passionné pour l'art contemporain et très très vite pour le street art. Et pour moi, ce qui est intéressant aussi à travers le street art, c'est que c'est un art qui est en prise directe avec la société en réalité et qui donne à savoir au plus grand nombre. C'est-à-dire que quand un street artiste comme Nevercrew, un groupe de street artistes comme Nevercrew parle de l'environnement en faisant des fresques sur les murs, il parle de la société et donc il y a un engagement qui n'est pas qu'artistique mais sociétal. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire d'ailleurs pas mal sur le street art, c'est en utilisant effectivement le street art comme finalement un peu un prétexte pour parler de la société, que ce soit le Brexit, l'environnement, la démocratie ou autre chose. Ça, c'est un premier point. Le deuxième aspect, c'est qu'effectivement, moi, j'ai été élevé au départ dans une banlieue à Bagneux jusqu'à 10 ans. Mes parents étaient des petits chefs d'entreprise et je suis un produit comment dire, des années, pas des années 60, parce que j'étais trop jeune, mais de la suite de ces années qu'on a appelées les Trente Glorieuses, où j'ai fait des études finalement de droit qui étaient à l'époque des études moyennes, je suis monté dans le train du travail, j'ai fait ce que j'avais à faire sans me poser trop de questions, j'ai eu la chance de rentrer dans un métier qui était formidable, qui était avocat, et donc d'être émerveillé tous les jours par la progression de ce métier. Et aujourd'hui, je suis un peu en butte avec une civilisation très individualiste, très mercantile. Dans laquelle je ne retrouve pas en réalité tout ce qui a fait le sel, moi, de mon développement, qui était aussi un développement qui permettait de valoriser les autres, de les aider, d'être un peu solidaire, et puis d'aider dans le développement des uns et des autres. Aujourd'hui, on voit bien que les inégalités remontent depuis les années 80, qu'elles se sont accélérées depuis les années 2000. Et j'ai la profonde conviction qu'il faut que, quand on a réussi socialement, quel que soit son métier, hein, qu'on soit avocat, médecin, ou grand capitaliste, il faut quelque part, un peu comme le disent les Américains, give back et essayer de faire quelque chose pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être peut-être dans le bon métier, dans le bon train, ou en tout cas, que ce soit une malchance, que ce soit parce qu'ils ont mal travaillé, enfin peu importe le truc, mais on ne peut pas continuer, et ça c'est mon avis, on ne peut pas continuer à laisser trop d'écart entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas dans une société strictement individualiste. Ça, c'est pas possible. Donc, parce qu'en réalité, on sait que ça se finit toujours mal, et que si on veut progresser, il faut, pour pouvoir d'abord sanctionner, il faut pouvoir valoriser et tendre la main. Voilà. Et donc, c'est un peu ça, en tout cas, moi, qui est un credo de ma part. Je vous donne un exemple, qui est un vrai exemple pour moi. Je fais beaucoup d'opérations de private equity, ce qu'on appelle les LBO. Et quand on fait un LBO, vous allez finalement faire une opération qui va permettre à 5, 10, 15, 20 cadres finalement de s'enrichir à travers l'opération qui va être faite. Mais les salariés dans leur ensemble, eux, ne vont pas gagner tout ce que ces gens vont gagner. Et pourtant, ils ont participé à l'effort pour faire que finalement l'entreprise a créé de la valeur. Je reste persuadé qu'il faut que cette valeur soit partagée désormais entre le fonds d'investissement, entre les vendeurs, mais aussi avec tous les salariés, d'une façon ou d'une autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut la partager de façon, voilà, on ne va pas diviser par le nombre de personnes, ce n'est pas le sujet, parce que chacun a des talents différents et chacun participe à l'effort différemment. Mais en même temps, vous ne pouvez pas continuer à rendre 10 personnes riches et puis dire à la grande masse des salariés qui ont travaillé parfois, qui ont fait les 3-8, hein, voilà, pendant la période de pandémie, qu'ils n'ont pas de prime, une augmentation modique, et ils s'affrontent un coût de la vie avec une inflation à 5%. Ça, c'est pas possible. Et donc, moi, je reste. Donc ça, c'est un engagement personnel, parce que en réalité, si moi, la société ou mes premiers patrons ou c'est mes m'avaient pas tendu la main pour être dans le bon train, ben, j'aurais peut-être été un avocat médiocre ou j'aurais peut-être même pas fait avocat. Donc, il y a un moment, il faut raison garder et on ne peut pas vivre dans une société où les inégalités s'accruent de jour en jour. Sans pouvoir essayer d'y remédier. Donc ça, ce sont des vraies convictions et je me sens redevable vis-à-vis de mon pays, redevable vis-à-vis de tout ce que j'ai vécu parce que je suis pas le plus brillant du stade, loin s'en faut. J'ai pas fait des études brillantes, j'ai fait des études de droit, j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu de la chance que ça tombe du côté pile, mais pour beaucoup, c'est pas tombé du côté pile, c'est tombé du côté face. Donc
Oui,
voilà.
mais est-ce que ça n'existe pas déjà finalement à travers la participation? Peut-être.
Alors oui et non. Parce que alors il y a la participation et l'intéressement, il y a la participation, enfin si on regarde les montants qui sont consacrés sur la participation et l'intéressement, ce ne sont pas des montants. Alors la participation c'est obligatoire, l'intéressement ça ne l'est pas, mais ce ne sont pas des montants suffisants qui vous permettent aujourd'hui de donner de l'espoir aux gens qui ne sont pas strictement capitalistes ou qui ne sont pas dans le bon train, c'est pas vrai. Voilà. Donc il faut trouver des moyens pour relier le capitalisme tel qu'on le vit aujourd'hui avec finalement l'autre bout de la corde, qui est les gens qui se lèvent le matin. Un gars qui est smicard, qui gagne 1 200 et qui va peut-être avoir 1 400 au bout de 25 ans, il n'y a pas tellement de futur, hein, pas tellement d'avenir. En tout cas, ça fait pas rêver. Hein. Pareil pour un cadre très moyen qui va se dire je vais être viré 40 fois et si je n'arrive pas à tirer mon épingle du jeu, je ne vais pas y arriver. Donc il faut essayer de trouver les moyens pour repassionner les gens pour créer de la valeur dans les entreprises. Hein. Mais pour ça, il faut que tout le monde en profite. Hein. Ça ne peut pas être juste une petite partie de personnes. C'est pas
Alors, est-ce que le système que vous proposez peut fonctionner si dans le monde entier, toutes les entreprises se mettent à l'appliquer? Si vous avez une entreprise qui est en Belgique qui ne le fera pas, une entreprise qui est en France qui le fera, l'entreprise belge va trouver beaucoup d'investisseurs. Les investisseurs ne vont pas se ruer pour investir dans l'entreprise française s'ils savent qu'ils vont devoir, au moment de revendre leur action, repartager encore. Mon
Alors,
raisonnement est plutôt logique.
Oui, bien sûr. Et c'est ce type de raisonnement d'ailleurs qui nous a contraints de ne pas faire grand-chose pendant pas mal de temps en fait. En réalité, dans un monde globalisé, on peut toujours mettre son entreprise à côté d'une frontière où il y a des impôts très faibles, des charges très faibles, voilà. Et puis on fait ce qu'on veut pour redistribuer la valeur. Moi, il y a un moment, il faut prendre les choses dans l'ordre. Je peux pas, dans un monde globalisé, empêcher une entreprise d'aller, je ne sais où, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, pour citer cela, ou même encore plus loin. Mais il y a un moment, il faut bien commencer par quelque part. Voilà. Si ces convictions sont partagées, on parle de création de valeur à la fin de la journée. Donc, si tout le monde est motivé pour créer de la valeur, l'entreprise qui est en France avec des salariés motivés créera plus de valeur qu'une entreprise qui est peut-être en Belgique où les salariés sont moins motivés et où l'argent ira simplement sur
aussi,
quelques
oui.
Voilà. Donc, en fait, je dis pas que j'ai raison. Je dis pas que j'ai raison sur tout, mais je dis qu'il faut chercher et trouver impérativement le lien pour réunir les gens plutôt que de continuer à les opposer sans cesse. Voilà. Moi, ce que je pense, si vous voulez, c'est que c'est assez injuste. Je parle des opérations de prêt equity, par exemple, hein, mais ça peut être d'autres. Hein. C'est assez injuste, finalement, de ne pas rétribuer l'effort de tout le monde, hein, parce que la création de valeur, elle est le fruit pas simplement que de 5 cadres, mais il y a aussi des dizaines de salariés qui ont travaillé, plus ou moins bien, mais ils ont participé à l'effort. Donc ça c'est quand même une première remarque. Et la deuxième remarque, c'est que je suis convaincu que si tout le monde est axé sur créer de la valeur, la valeur d'entreprise augmentant, si vous voulez, les actionnaires vont pas y perdre. Au contraire, ils vont ne faire qu'y gagner. Hein, et donc, ce que vous pouvez, par exemple, vendre sur un multiple aujourd'hui de 8, demain, vous le vendrez sur un multiple de 10. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de sujet. Enfin, moi, je ne vois pas qu'il y ait beaucoup de sujets. Voilà.
Alors c'est un sujet passionnant que vous abordez, Philippe Rosenpick, parce qu'on frôle aussi celui de la répartition, on frôle celui de la participation. À partir de quelle taille d'entreprise cela pourrait être mis en place? Bien sûr, c'est pas pour un artisan ou une PME qui a 50 salariés, hein, on est d'accord.
Je ne sais pas si on est d'accord. Alors oui, pour les artisans, c'est un peu plus compliqué, mais souvenez-vous que quand De Gaulle a mis en place la participation, le nombre d'années qu'il a fallu pour qu'elle soit obligatoire d'une part, et le nombre d'années qu'il a fallu pour qu'elle soit obligatoire, je crois, sous fin de ma part, à partir de 50 salariés, hein, c'est ça. Hein. Je n'ai pas vérifié, mais il a fallu passer par, je sais pas, ça a duré 20 ans, 30 ans, cette affaire. Donc, là aussi... tout le monde ne peut pas être éligible parce qu'effectivement les situations sont assez différentes, mais oui, pourquoi pas 50 salariés? Voilà, c'est pas forcément un mauvais critère. Hein. Voilà. Mais en tout cas, ce que je dis, c'est qu'il faut essayer impérativement de pouvoir redonner du dynamisme à nos entreprises. Si on avait réussi, on aurait un tissu de PME beaucoup plus fort et à l'image de ce qui s'est développé en Allemagne. Donc, pourquoi ne l'a-t-on pas? Je me pose ces questions-là. Pourquoi, quand je suis cadre moyen, je rentre dans telle boîte, et puis finalement, entre le fait que je vais me faire virer, je sais pas, 5-7 fois dans ma carrière, que je vais divorcer, je vais plus avoir accès à l'immobilier, je vais plus avoir accès à une retraite d'essence,
faut que je bosse du système. Ans,
donc, il y a un moment, si vous voulez, si on s'affronte pas à tous ces sujets-là, il n'y a pas de baguette magique, hein. Mais si on n'affronte pas ces sujets-là, et qu'on attend qu'ils nous explosent dans la tête en plein vol, c'est ce qui se passera. C'est juste ce qui se passera. Vous pouvez pas, j'en suis persuadé, hein, vous pouvez pas, mais à tort ou à raison, que vous ayez bien travaillé, moyennement bien travaillé, enfin, j'en sais rien, on ne peut pas continuer à avoir des sociétés avec trop d'écart et trop peu d'espérance. C'est pas possible. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que, Yannick, moi, tout mon métier et tout ce que j'ai réussi à faire dans ma vie, c'est Noël tous les jours. Je veux dire, j'ai jamais rêvé de prendre le Concorde, je l'ai pris, j'ai jamais rêvé de connaître les gens que je connais, j'y suis arrivé, mais ça n'a pas été un but dans ma vie de faire ça, parce que j'en étais complètement absent. Je savais même pas que ça existait. Voilà. Mais par contre, c'est un plaisir journalier de pouvoir avoir accès à des gens très intelligents, à qui on peut échanger, avoir accès à ce que j'ai à avoir accès. Et je suis bien un produit de, alors, la République française, qu'on appelait ça, qui sort de nulle part, finalement.
De la méritocratie.
Oui, mais parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai pas fait des grandes études, mais j'ai beaucoup travaillé. Voilà. Mais parce que j'ai eu aussi de la chance. Voilà. C'est aussi pour ça. Mais aujourd'hui, si vous regardez les stats et que vous dites qu'il faut 6 générations, ce que j'entends, pour passer de la classe inférieure à la classe moyenne, ce n'est pas acceptable. Ce n'est tout simplement pas acceptable. Parce que dans ces gens, il n'y a pas que des abrutis qui arriveront à rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, ce n'est pas acceptable. Vous ne pouvez pas avoir une société fracturée, cassée, et en même temps avoir en vente libre toute la société de consommation sur votre iPhone. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et plutôt que d'opposer les gens les uns aux autres ou de créer des fiscalités confiscatoires, pourquoi pas, au contraire, essayer de redonner du tonus à tout le monde et pour une fois essayer de rallier un peu tout le monde à la même chose. Qu'est-ce que fait d'ailleurs, qu'est-ce que font les conseillers de Macron, j'ai l'impression, en ce moment, c'est qu'ils disent, écoute, il va falloir mettre une petite barre sur ce côté-là, parce qu'autrement, les gilets jaunes, ça va être rouge pivoine et puis 125. Vous ne pouvez pas payer votre loyer, si vous ne pouvez pas payer votre immeuble,
Votre plein
votre
d'essence.
appartement, voilà, et c'est pas parce que vous êtes naze, hein, c'est parce que vous êtes dans une profession qui ne vous donne pas accès. Voilà, hein. Et ça, c'est pas possible de continuer comme ça. Voilà.
Merci Philippe Rosenpeek, l'avocat d'affaires Philippe Rosenpeek était mon invité pour commenter l'actualité. On a parlé de street art et puis de sujets totalement différents, celui un peu de la participation, en quelque sorte, voilà, et participation des bénéfices, mais aussi participation même au moment de la revente des entreprises. Vous nous avez expliqué quel était votre raisonnement. Merci Philippe Rosenpeek, merci Philippe.